France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 29 août, soyez les bienvenus sur France Musique. Davy Travailleur est à la réalisation, Swad Boukorsa et Emmanuel Dupuis à la technique. Soyez les bienvenus dans cette émission consacrée à la culture, à l'écologie, au chant choral, à la musique bien sûr. Alors voici le menu du jour. À 7h45, le chef Hervé Niquet partagera un croissant et un choix musical avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous fera découvrir l'une des plus grandes cavernes d'Ali Baba du chant choral, le centre de documentation pour l'art choral en Bourgogne. À 8h15, Sophia Anastasio nous emmènera au festival Ouverture en Ile-de-France. Et puis à 8h30, nous recevrons la chanteuse de jazz Leïla Martial et le directeur de l'Orchestre français des jeunes Pierre Barrois, tous deux engagés pour insuffler plus d'écologie dans la musique vivante. Enfin, Christophe Chassol évoquera à 8h50 son compositeur préféré disparu il y a quelques semaines, Ennio Morricone. Très très bon réveil à notre écoute.
Thank you.
Le plus grand succès chambriste de Dmitri Shostakovitch, ce quintet avec piano en sol mineur opus 57 dont nous écoutions le tout début, les premières mesures, le prélude par le trio Van der Rohe. Catherine Monti et Christophe Goguet, nouveauté discographique pour ce trio créé en 1987 et que l'on n'arrête jamais, le trio Van der Rohe avec au menu ce quintet de Shostakovitch ainsi qu'un cycle de mélodies avec trio à découvrir. C'est une sortie Harmonia Mundi en partenariat avec France Musique. Alors eux aussi sont liés, les 300 musiciens issus des 27 pays de l'Union Européenne réunis sous la bannière de l'Orchestre des Jeunes de l'Union Européenne. Ce soir, 13 d'entre eux vous proposeront un concert unique en France, ça se passe à Agen. Concert qui s'inscrit dans le cadre du nouveau festival de musique de chambre initié par l'orchestre. Il s'agit du European Music Gallery Festival, organisé sous le haut patronage de l'Union Européenne. Au menu, un voyage autour de plusieurs chefs-d'œuvre du répertoire classique. On entendra des compositeurs comme Bach, Mozart, Reicha, Tchaïkovski. Rendez-vous à 21h, place de l'Hôtel de Ville à Agen. Pour plus d'informations, rendez-vous sur billetweb.fr. Thank you. Adieu, Allegro, deuxième mouvement du concerto brandebourgeois numéro 3 de Jean-Sébastien Bach avec une fine équipe ici réunie. Franz Bruggen, Paul Dombrecht, Sigvald Køken, Wilhelm Køken, Paul Rippers et Gustav Leonhard.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est une nouveauté que je vous propose à 7h41, Airlines, nouveau disque du flûtiste Emmanuel Pahut, accompagné par l'Orchestre National de France. Les musiciens nous invitent à découvrir une nouvelle facette du compositeur français Alexandre Desplat. C'est d'ailleurs lui qui dirige l'orchestre. L'album comporte notamment des musiques de films d'Alexandre Desplat dans de nouvelles versions pour flûte et orchestre. Parmi elles, celle de The Grand Budapest Hotel, un film fantastique de Wes Anderson qui retrace les aventures de Gustav H., concierge d'un célèbre hôtel européen de l'entre-deux-guerres et du garçon d'étage Zéro Mustapha. Rappelez-vous, le film était sorti en 2014. extrait de la bande originale de Grand Budapest Hotel d'Alexandre Desplat, bande originale interprétée par Emmanuel Pahut, l'Orchestre National de France et le compositeur qui dirigeait lui-même les musiciens. C'est une nouveauté parue chez Warner Classics en partenariat avec France Musique. Et j'ai même entendu dire qu'Emmanuel Pahut et Alexandre Desplat seront les invités de la matinale de Jean-Baptiste Urbain la semaine prochaine. Restez donc bien branchés sur France Musique. Et c'est l'heure du choix musical d'un musicien, l'heure du petit déjeuner. Bonjour Hervé Niquet.
Bonjour Madame Saskia.
J'adore commencer l'année avec vous. Comment allez-vous?
Bah, très bien, ravi de vous entendre.
Mais de
un
même.
Pour moi, un peu trop tôt.
Ah, vous n'êtes pas matinal?
Ah non, j'ai vraiment du mal quand même.
Mais heureusement, vous êtes quand même là avec nous ce matin. Qu'y a-t-il sur la table de votre petit déjeuner?
Eh bien, je suis dans un hôtel. Alors là, je suis en face du monastère de Solesmes parce qu'on jouait hier soir au Festival de Sablé-sur-Sarthe, sans public évidemment. Et donc, on a couché en face de l'abbaye de Solesmes. Alors, j'ai juste du pain sec et de l'eau, évidemment.
Je vous reconnais bien là. Alors, entrons dans le vif du sujet, Hervé Niquet. Quel est votre choix musical à l'heure du petit déjeuner? Qu'avez-vous souhaité partager avec nous ce matin?
Eh bien, c'est un sujet passé, il y a 2 jours exactement, avec l'Orchestre de Chambre de Paris. On a donné le premier concert de leur saison au Parc Floral. J'ai constitué un programme un peu rigolo, avec des choses légères, des très belles choses. Il y avait aussi de sérénades de Dvorak et les chants bohémiens avec Karine Dehaie. Mais j'ai fait 1 heure de musique où il y avait des choses sérieuses et des choses très rigolotes, des tangos de Piazzolla, qu'on va entendre, je crois, et j'ai même chanté On a le Béguin pour Célestin, ou alors C'est si bon d'Henri Betti avec Karine Dehaie. Et ce concert, alors il y avait évidemment une jauge, une demi-jauge dans ce parc floral en plein air. Les gens ne s'attendaient pas à ça. J'ai voulu faire un programme vraiment festif, drôle, et il y a une dame qui est venue me voir après avec son masque, évidemment, je sais même pas qui c'est, elle est venue me dire écoutez, c'est mon premier concert depuis longtemps, je savais pas qu'un concert ça pouvait être rigolo, et elle s'est mise à pleurer. C'était formidable, et tout le monde était comme ça. Et même les musiciens qui en voulaient, bon, en plus on était un peu disposés assez large pour des raisons sanitaires, tout le monde y a mis du sien, c'était drôle, c'était frais, tout le monde en a envie. Enfin voilà, ça c'était mon coup de cœur. Ça a été retransmis sur France Musique.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. France Musique était sur le pont. Le concert a été diffusé hier soir sur nos ondes. Peut-être que certains de nos auditeurs étaient à l'écoute hier soir. Mais petite séance de rattrapage pour ceux qui l'auraient manqué ce matin avec Libertango d'Astor Piazzolla. Merci beaucoup, Hervé Niquet, d'avoir été des nôtres ce matin. À très bientôt.
À très bientôt.
Hervé Niquet et l'Orchestre de Chambre de Paris avec cet arrangement de Libertango d'Astor Piazzolla lors de ce concert donné jeudi soir au Festival Calcico Vert, diffusé hier soir sur nos ondes, à réécouter bien évidemment sur francemusique.fr. On s'intéresse à présent à un autre festival, à cet autre festival qui se réinvente. Le festival Note d'écume qui se tient à Port-le-Cat, initialement annulé suite au coronavirus, il renaît de ses cendres et vous donne rendez-vous tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de septembre pour des concerts avec le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca, le guitariste Thibaut Garcia ou encore la soprano Raquel Camarinha. Les concerts sont doublés pour permettre la distanciation sociale et donc à vous tous d'y assister. Ce soir, le mandoliniste Julien Martineau et la pianiste Vanessa Benelli-Mosel joueront en duo à 18h30 et à 21h. Plus d'informations sur l'adresse www.notedecume.com. Quelques notes du rondo, extrait de cette grande sonate pour mandoline et piano, opus 37 de Johann Nepomuk Hummel, interprété par le mandoliniste Julien Martineau et la pianiste Vanessa Benelli-Mosel. Deux musiciens qui seront donc en concert ce soir au festival Note d'écume à Port-le-Cat. Concert à 18h30 et à 21h. Et c'est l'heure de notre concours du jour. Je vous offre ce matin un disque de jazz, le disque Cooking de Géraldine Laurent. Cooking, parce qu'en musique comme en cuisine, il faut savoir doser chaque ingrédient avec parcimonie afin de tendre vers la perfection. Géraldine Laurent forme un quartet avec Paul Lai, Yoni Zelnik et Donald Contomanou. Et c'est le deuxième disque qu'ils nous proposent ensemble que je vous offre ce matin. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Cliquez sur Contactez-nous et laissez-nous vos noms, prénoms et adresses postales complètes et puis la bonne réponse à la question qui va suivre et vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Ce matin, je vous propose de deviner de quel instrument Géraldine Laurent joue. Est-ce du saxophone, du ukulélé ou alors du piano mécanique? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. De quel instrument Géraldine Laurent joue-t-elle? Si vous avez la réponse, rendez-vous sur francemusique.fr pour tenter de remporter ce disque Cooking. Puisqu'on parle de jazz, sachez qu'à l'occasion du centenaire de Charlie Parker, le Sunset à Paris organise un hommage au célèbre musicien et le jazz club d'Yvan Amar. Il sera en direct ce soir dès 19h sur France Musique pour le concert Bird vs Bird avec justement Géraldine Laurent et le quintet de Pierrick Pedron. Soyez donc eh bien, rendez-vous.
L'orchestre, comment ça marche? Je vous invite à un voyage au cœur de l'orchestre pour explorer les rouages de cette étrange communauté humaine où 100 personnes jouent comme une seule. Rendez-vous au cœur de l'orchestre tous les dimanches de 9h à 11h sur France Musique et francemusique.fr.
Un rendez-vous en partenariat avec Le Figaro.
France Musique.
France Musique.
Les danses populaires roumaines de Béla Bartok, interprétées par Raphaël Sever et Paul Montag, extrait de ce disque On Tour, qui vient ponctuer plusieurs années d'amitié humaine et musicale, plusieurs années de partage de la scène, avec une sélection d'œuvres jouées au cours de leur tournée, de leurs concerts. C'est un disque qui est paru chez Mirare. 8h11, je vous propose de poursuivre avec l'ensemble Alla Francesca qui se consacre au répertoire de la fin du 11e jusqu'au début du 16e siècle. L'ensemble qui sera en concert au Festival Ouverture en Ile-de-France demain au Potager du Dauphin à Meudon. Festival dont nous parlera justement et d'ici quelques minutes notre très chère Sophia Anastasio dans son reportage. Amour, mi faire envoisé, chanté de Monio Darras, interprété ici par l'ensemble Alla Francesca et Brigitte Lenne. Et c'est l'heure de notre reportage. Bonjour Sophie Anastasio.
Bonjour Saskia.
En juin dernier, 10 ensembles membres de la FEVIS, la Fédération d'ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés, ont décidé de lancer un festival pour jouer à nouveau et retrouver le public. Une démarche collective et solidaire en réponse à la crise sanitaire. Sophia, vous êtes rendue sur l'île Saint-Denis où se tenait mercredi soir un concert de 4 musiciennes de l'ensemble Divertimento.
Un concert donné au milieu d'un square entre des joueurs de basket et une aire de jeu devant la scène des Transats était installé prêt à accueillir les spectateurs. On écoute Aurore Sabi, responsable de diffusion de l'orchestre Divertimento. Attention, on est dans un parc, ça crie un peu à la fin.
Ce festival, il a vraiment été créé à un moment où on était en train de réfléchir à l'après et on ne voulait pas rester passif et inactif. Voilà, dans cette période un petit peu compliquée d'arrêt de toute notre activité artistique, en se disant pourquoi pas organiser ou mettre en place une initiative solidaire et engagée par la coopération de plusieurs ensembles et orchestres franciliens pour créer une nouvelle entité artistique qui serait le festival Ouverture en Ile-de-France. Et donc il s'est créé très tardivement, plutôt vers le mois de juin. Et je pense que en 3 semaines, 1 mois, le festival était monté et des concerts se sont ajoutés les uns aux autres pour créer cette entité de festival.
Épaulé par la FEVIS, le festival a été financé par les ensembles eux-mêmes et le Conseil régional d'Île-de-France. Pour jouer, les artistes ont contacté plein de lieux avec l'association Jardins Ouverts et ce sont eux qui ont choisi ce qu'ils allaient jouer. Une liberté totale assez rare qui réjouit Jean-Christophe Rich, directeur artistique du festival.
Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de ligne directrice, c'est plutôt l'idée d'un foisonnement, toutes sortes de choses, tout le monde joue ce qu'il a envie et avec une bienveillance de chacun des groupes par rapport aux autres. Et d'ailleurs, une chose intéressante à dire, c'est que la plupart des ensembles ont invité les collègues à jouer dans un lieu avec lequel ils sont en relation étroite, en résidence ou des choses comme ça. Il y a eu beaucoup d'échanges entre nous. Et ça, c'est une chose qui est très précieuse. D'abord parce que ça nous crée des relations. Chacun d'entre nous a rencontré des partenaires avec lesquels on pourrait travailler dans l'avenir aussi. Ça a été des ouvertures, comme dit le nom du festival. On a fait ce qu'on aimait faire. Et on continue d'ailleurs pendant les derniers jours qui arrivent.
Et ensuite, on va vous jouer une sicilienne d'une compositrice qui s'appelle Maria Teresa von Paradise. Et donc, nous, c'était l'occasion aussi de vous présenter l'œuvre d'une compositrice parce que les compositrices ne sont pas très souvent mises à l'honneur. Donc, nous, ça nous faisait plaisir de les intégrer au programme. Et bon concert à tous, je vous laisse tous vous installer et bonne écoute.
Pendant 1 heure, 4 musiciennes de l'orchestre Divertimento ont joué un programme varié. Il a commencé par Mozart pour finir par West Side Story pour le plus grand plaisir du public.
Touché, merci beaucoup et félicitations.
Merci.
Ça nous a rendu heureux d'avoir vraiment un tel concert et surtout les œuvres qu'elles ont jouées ont été magnifiques. Donc un grand merci en fait.
Comment vous avez entendu parler de ce concert ?
Sur le groupe des parents, des élèves, c'était un parent qui nous a mis les infos, donc on est venus.
C'était trop bien, il joue trop bien. Et c'est rare que j'en écoute, parce que des fois, moi, j'écoute les musiques de 2020, du hip-hop. Mais ils ont trop bien joué, je trouve.
Tu trouves ça chouette d'avoir des concerts comme ça dans un parc ?
Je crois que dans Paris, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc, peut-être on a la chance, nous, à l'île Saint-Denis.
Oui, c'est cool. Ça ramène des gens. On regarde, on s'amuse, on écoute. Et en plus, ça nous calme. Enfin, c'est assez bien. Et je trouve qu'ils jouent bien, en fait. C'est ça qui est cool. Et c'est tranquille. Pour regarder des fois, pour écouter, faut payer pour aller voir. Et là, c'est gratuit. On est dans un parc, on est tranquille. Il y a des gens qui jouent. Et on entend ça. Et on est tranquille, on est posé. Et il n'y a pas de problème, voilà. Donc je trouve ça assez cool.
Un enthousiasme partagé par Fetoumazi Ioani, violoncelliste soliste et cofondatrice de l'ensemble.
C'était très agréable de jouer là. C'était bien d'avoir à la fois ce public qui était assis et attentif et puis même si les enfants ils sont autour et qu'ils jouent, même s'ils m'ont écrit, quelque part ils écoutent toujours d'une oreille. Donc du coup, c'est quand même bénéfique pour eux, c'est quelque chose qu'ils auront quand même dans l'esprit, dans la tête. Pour moi, c'est très important de remonter sur scène, mais c'est surtout très important de retrouver les publics, parce que les enfants, les jeunes, enfin tout le monde, ils ont été aussi privés de beaucoup de choses pendant ces moments-là. Et c'est vrai que la musique, la culture, l'art en général, c'est quand même vital. Et de pouvoir leur apporter de nouveau ça, c'est quelque chose qui est hyper enthousiasmant.
Créer du lien avec les publics, c'était l'un des objectifs du festival, tout comme adopter une démarche éco-responsable, ça tombe bien avec cette matinale, en favorisant les transports en commun par exemple et en bannissant les programmes version papier. Et l'opération est plutôt réussie, nous explique Fanette Rousseau, responsable du développement à la FEVIS.
Tous les ensembles qui ont participé à ce festival ouverture, on n'a pas encore fait le bilan, mais la plupart ont déjà exprimé l'intention de recommencer. Évidemment, l'idée, ça serait d'en faire un festival qui soit pérenne et financièrement acceptable, parce que là, il y avait ce côté exceptionnel où les ensembles ont mis de l'argent pour pouvoir jouer et retrouver le public. L'idée, ce serait quand même qu'ils puissent en gagner, c'est leur métier. Donc, il faudrait qu'on trouve des financements. Et aussi, on envisage vraiment d'ouvrir aux autres ensembles d'Île-de-France pour qu'ils puissent participer eux aussi.
Que ce soit Fanette Rousseau ou Louis Pressé, délégué général de la FEVIS, ils adressent un grand bravo aux ensembles pour leur engagement et leur solidarité.
Et les musiciennes de l'ensemble Divertimento se produisent aujourd'hui dans le cadre du festival à Saint-Denis et à Épinay-sur-Seine ce soir. Le festival continue jusqu'à demain. Toutes les dates sont à retrouver sur le site de la FEVIS, fevis.com. Merci beaucoup,
je
Sophia. Quel plaisir de vous avoir à mes côtés.
Je suis ravie.
Et on vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment.
À la semaine prochaine.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et au menu de l'émission, samedi à l'Opéra, ce soir à 20h, en route pour les Proms de Londres. Jeudi, Chen vous propose en effet de redécouvrir l'opéra Léonore de Beethoven, qui est la toute première version de Fidelio. L'histoire de Léonore, vous savez, cette femme qui se déguise en homme, en se présentant sous le nom de Fidelio, dans le but de se rapprocher de son mari Florestan, qui se trouve injustement incarcéré en prison. La production diffusée ce soir a été donnée au Royal Albert Hall en 1996, avec Sir John Eliot Gardiner, à la tête du chœur Monteverdi et de l'orchestre révolutionnaire et romantique, et avec Ilevi Martin Pelto dans le rôle de Léonore. En voici un extrait.
Thank you.
David Martin Pelto dans le rôle de Léonore, accompagné par l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique et Sir John Eliot Gardiner à la direction de cet opéra Léonore de Beethoven, à découvrir sur les ondes de France Musique ce soir à 20h, production de 1996 au Royal Albert Hall. Ce sera pour l'émission de Judy Chen ce soir. Il est 8h30.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Le milieu musical est engagé depuis quelque temps dans une vaste réflexion pour relier la musique et l'écologie. Depuis la gestion des déchets à la remise en question des comportements des musiciens, en passant par la mise en place d'un système de tournée plus responsable ou par des mutations plus structurelles, insuffler une dimension écologique à son fonctionnement, transformer les usages des métiers, affronter les dilemmes relevant de la responsabilité écologique, ce qui n'était hier qu'une tendance est aujourd'hui devenue une nécessité. Et pendant le confinement, deux nouvelles initiatives ont vu le jour dans le domaine de la musique classique, Cadence Rompue, musicien, musicienne engagée pour le climat, et dans le jazz et les musiques improvisées, pour une écologie de la musique vivante. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin pour en parler Leïla Martial et Pierre Barrois. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Leïla Martial, vous êtes chanteuse de jazz, vous êtes en direct avec nous depuis France Bleu Toulouse, bienvenue. Pierre Barrois, vous êtes directeur de l'Orchestre français des jeunes et rédacteur de cette tribune Cadence Rompue pour un monde musical, écologique et social. Tout d'abord, la culture peut-elle subir des impacts directs du changement climatique? C'est une question, ça,
c'est
Pierre
Barrois.
C'est
une vraie question. Alors d'abord, je suis co-rédacteur avec Louise Lapierre, bassoniste, et Gilles Schumacher, compositeur et enseignant. On a écrit cette tribune à trois. La culture va subir, comme tous les secteurs d'activité, l'impact direct, oui, du changement climatique, bien sûr. Au premier rang desquels, évidemment, tout ce qui est du plein air, les événements climatiques se multiplient, s'amplifient surtout, leur gravité augmente. Et donc, oui, bien sûr, la culture, évidemment, subira les effets.
On pense évidemment, quand on pense concert en plein air, on pense au grand festival de l'été, au grand festival de jazz aussi. Leïla Martial, ces impacts, vous les ressentez aussi, vous, dans votre secteur?
Je ne sais pas si on peut dire qu'on les ressent concrètement. En tout cas, on est soucieux, on fait un bilan aussi de nos pratiques. C'est-à-dire, on se dit, comment je me situe, moi, en tant que pollueur, que impactant, que citoyen impactant à ce niveau-là. Et effectivement, vu nos vies de globe-trotteurs, et puis donc de consommateurs, d'arriver sur des lieux, d'être accueillis, on génère aussi une certaine pollution. Donc c'est juste de regarder ça, de regarder ça en face.
L'humain avant l'artiste, peut-être. Leïla Martial, vous êtes donc à l'origine de cet appel pour une écologie de la musique vivante qui a été portée par la Fédération Grand Format, Fédération des grands ensembles et collectifs de jazz et musiques improvisées. Mais à quel moment cette initiative est-elle née?
Elle est née, elle fait partie des fruits qui ont pu pousser pendant le confinement. C'est-à-dire, c'était une réflexion, enfin, j'étais sensible à ce sujet-là, évidemment, depuis longtemps, mais ma vie de musicienne sur les routes, etc., me laissait pas le temps d'approfondir le sujet. Donc, suite à un bouquin d'Aurélien Barreau, qui s'appelle Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, qui fait un peu un état des lieux de notre écosystème, puis voilà, du monde actuel. J'ai vécu un abattement aussi par rapport à cet état des lieux, et je me suis dit c'est pas possible de ne rien faire à notre niveau, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à rédiger des petites mesures, des propositions, et puis finalement à rassembler des gens qui me semblaient déjà investis sur le sujet ou sensibles au sujet, avec diverses compétences. Et donc, on a commencé à discuter de ça et à rédiger plus sérieusement. Enfin, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc, particulièrement avec Pierre Perchaud, guitariste, avec Grégoire Letouvet, compositeur et pianiste, Camille Durand, vocaliste et compositrice, Rémi Leclerc, et puis Aude Chandonnet. Il y a eu Adrien Chiquet aussi qui s'est bien investi aussi sur le sujet, qui est conseiller à l'ONDA. Voilà.
Et Pierre Barrois, et vous, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Comment est née cette tribune?
En fait, c'est une préoccupation qui existe depuis assez longtemps. C'est aussi le fruit du confinement, de la réflexion, de voir aussi des tribunes qui étaient écrites par un certain nombre d'autres secteurs de la culture. Et puis, c'est aussi, une évolution, un mûrissement personnel, aussi lié à mon activité en tant que directeur de l'Orchestre français des jeunes, où là je me pose des vraies questions sur l'avenir de tous ces jeunes musiciens qui ont en moyenne 21 ans et qui voilà vont se retrouver dans quelques années, dans quelques dizaines d'années.
Ces questions les préoccupent,
ces questions musiciens les préoccupent beaucoup. Oui, je vous disais juste avant l'émission que on a donc dans une charte écologique maintenant à l'Orchestre français des jeunes qu'on a adoptée il y a quelques mois, et dans cette charte, et ce qui me paraît fondamental, il y a eu la question de la sensibilisation des jeunes musiciens. Et je crois que de toute façon, actuellement, tous les établissements d'enseignement supérieur, quels qu'ils soient, se posent cette question. On a procédé, j'ai envie de dire, à cette sensibilisation justement ces deux derniers jours avec une association qui s'appelle la Fresque du Climat et qui a permis aux musiciens de comprendre finalement le processus du réchauffement climatique à partir des activités humaines, de l'utilisation des énergies fossiles, et puis etc., l'augmentation des gaz à effet de serre. Et on a eu une longue séance de 2 heures avec les 2 demi-orchestres. Pour des raisons de Covid, on est divisé en 2 demi-orchestres. Et au cours de ces 2 séances, on a beaucoup parlé de leurs impressions, de leurs réactions par rapport à ce qu'ils ont compris vu dans cette fresque. Et oui, ils sont pour la plupart très conscients. Certains sont très inquiets, d'autres font beaucoup de choses au quotidien, d'autres apprennent et réalisent voilà qu'il faut vraiment agir.
Il y a les actions individuelles et puis il y a aussi ce qu'on peut faire ensemble, notamment ces engagements pris par Cadence Rompue et puis ces autres propositions pratiques. Et là, je m'adresse à vous, Leïla Martial, évidemment. Que proposez-vous concrètement? Par où avez-vous décidé de commencer?
Alors, on a rédigé un appel, ce qu'on appelle un appel, une tribune, et ensuite une liste de propositions, mais qu'on veut évolutive. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment l'amorce d'une réflexion qu'on veut active. On aimerait rassembler aussi tous les acteurs de la musique du jazz, de la musique vivante, pour proposer, imaginer ensemble des choses, parce que ce qui me semble très très important, c'est qu'on se retrouve pas à être les musiciens seuls à s'occuper de ces questions-là, parce qu'encore une fois, on va donner le bâton pour se faire battre si on procède comme ça, c'est-à-dire qu'on sera les premiers punis finalement à s'invisibiliser, etc. Donc pour moi, ce qui est très très important, c'est de rassembler autour de ces questions les producteurs, les organisateurs, les journalistes, les attachés de presse, enfin tous ceux qui font que ce métier, enfin cette activité musicale.
Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de vous adresser aussi à nous les journalistes, de repenser peut-être la manière dont nous parlons des artistes.
Exactement, exactement. On parle justement de revoir le modèle de l'artiste star, de l'artiste qui réussit. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui cet artiste en fait consumériste qu'on met au pinacle, qui finalement enchaîne les dates à l'autre bout du monde, etc., sans se poser la question vraiment du sens de sa présence quelque part. Et moi, pour moi, il est temps effectivement que tous ensemble, on ait un autre regard sur qu'est-ce que c'est que réussir. Qu'est-ce que c'est que finalement notre rôle de transmettre des valeurs? Donc c'est toute une dimension axiologique qu'il faut bouger, et il faut qu'on le fasse tous ensemble. Okay. Ça me paraît indispensable. C'est comme ce qu'on disait, c'est que évidemment qu'on est des glaneurs, qu'on est des voyageurs, et que c'est très très important de pas se couper aussi de ce qu'on peut aller apporter. Mais comment on le fait?
Effectivement.
Comment on le fait sous un angle immersif, avec en échangeant vraiment de l'humain? Et voilà. Et on sait que aller à l'autre bout du monde pour faire une date pour une entreprise privée, une heure, et puis revenir le lendemain, ça n'apporte pas grand chose à l'humanité. Je veux dire, à soi non plus. Par contre, ça a un impact, ça a une empreinte carbone qui est pas négligeable. Donc, faut jauger, faut redevenir responsable, en fait, qu'est-ce qu'on fait. Mais aussi, il faut que ça devienne politique. Donc, que les sociétés civiles s'emparent aussi de ces questions, qu'il y ait des mesures qui favorisent des orientations plus écologiques des projets, etc. Nous, en fait, c'est une première étape. Moi, évidemment, j'ai pas les compétences juridiques, etc. Donc, là, en ce moment, on en est à la phase de rassembler des gens aux compétences diverses et de pouvoir petit à petit aller interpeller les pouvoirs publics, les sociétés civiles, etc., pour que ça devienne concret dans les pratiques.
Voilà. L'écologie peut aussi être moteur d'expression artistique. Hein. Je vous propose d'écouter tout de suite Hermeto Pasquale, qui puise son inspiration dans les paysages de sa région natale. C'est Bento Hermeto Pasquale pour nous accompagner ce matin sur France Musique. Nous parlons musique, nous parlons écologie avec nos invités Leïla Martial Et Pierre Barrois, on parle de ces appels, de ces tribunes lancées par nos invités. Pierre Barrois, vous me disiez avoir été surpris de la variété des signatures qui ont adhéré à votre tribune.
Oui, on a eu évidemment beaucoup de musiciens, d'instrumentistes, de chanteurs, même des danseurs, mais aussi comme le disait Leïla, effectivement, des journalistes, des techniciens, de la régie, bien sûr des compositeurs aussi, mais des ensembles, beaucoup d'ensembles de la FEVIS, plusieurs orchestres, des directeurs, directrices d'orchestres professionnels. Malheureusement peu d'établissements d'enseignement, et ça je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut avancer. Alors j'ai eu les deux au téléphone, les deux directeurs des deux conservatoires de Paris et de Lyon, pour leur parler de ces questions. Il se trouve qu'on a fait des podcasts à l'OFJ sur cette question, et voilà, je voulais leur en parler. Ils sont tous les deux très sensibles et ils vont s'y mettre, mais c'est compliqué, c'est des grosses maisons, c'est lourd, mais l'essentiel c'est de lancer la machine, quoi.
Et effectivement, de désamorcer cela. Parmi les propositions concrètes proposées par vos deux mouvements, Pierre Barrois, Leïla Martial, je pense à l'immersion, Leïla, vous nous en parliez, des musiciens une fois qu'ils se déplacent, à la relocalisation de l'art aussi, à rendre le voyage exceptionnel, arrêter avec l'exclusivité, arrêter aussi avec la surproduction de faire paraître des disques, plusieurs disques par an, des projets, des créations, etc. J'avais envie de vous faire écouter quelqu'un qui a rejoint le mouvement de Leïla Martial. Il s'agit d'Aurélien Barraud, vous en parliez tout à l'heure, astrophysicien et docteur en philosophie, qui postait cette vidéo en juin dernier sur les réseaux sociaux. Il y parlait justement de musique et d'écologie.
Si je souhaite mettre l'art en position centrale, ce n'est pas pour vous flatter. C'est parce que c'est réellement, me semble-t-il, le lieu de la production culturelle et intellectuelle humaine qui peut permettre l'émergence de déconstruction, pourrait-on dire, à la démesure de l'enjeu auquel nous faisons face. Et le pouvoir extraordinaire d'interrogation, de déconstruction, de mise en abîme procuré par le geste artistique me semble être d'une importance sans équivalent pour faire face à l'ampleur de la crise que nous traversons.
Aurélien Barrault, donc au sujet de l'écologie et de la musique. Leïla Martial, je trouve ça passionnant ce que raconte Aurélien Barrault. Il parle de ce rôle essentiel que les artistes, que l'art peut jouer pour provoquer du changement.
Oui, moi aussi. Bon, j'aime beaucoup tout ce que dit Aurélien Barrault sur l'écologie.
C'est l'art même qui permettra la révolution, comme il le dit.
Bien sûr, il parle de transfigurer le réel. Je veux dire, en fait, on est des créateurs d'imaginaire. On est précurseurs aussi à ce niveau-là. Donc, à la fois, même sans en parler, dans la proposition artistique qu'on a, on peut être dans quelque chose d'audacieux, de nouveau, se permettre en fait de rêver autre chose, une autre société. Et puis ensuite, dans ce qu'on dit, d'utiliser notre tribune aussi pour parler de ces choses-là. Je veux dire, en danse par exemple, ils font des bords plateaux à la fin des spectacles pour sensibiliser le public. Enfin, on a aussi une responsabilité, c'est-à-dire d'incarner ce qu'on défend. Et oui, vous parliez, il y a tellement de choses à dire. Par exemple, hier on discutait avec Camille, le simple fait par exemple sur un rider, le rider c'est très très important en tant que musicien, c'est ce que reçoit le lieu avant de recevoir l'artiste. Si sur le rider, il est mentionné qu'on privilégie des caterings végétariens, qu'on voudrait que ce soit du local, qu'on ne veut pas de nourriture industrielle emballée, etc. Bon, ça, on peut dire que c'est pas grand-chose. Mais à force de recevoir ce type de rider, l'organisateur, il prend conscience que la norme change, ça devient pas la viande à tous les repas, et le mode d'approvisionnement change. Donc, il commence à rentrer en réseau avec des producteurs locaux, à créer quelque chose dans sa région qui est plus dynamique, à mutualiser en fait les talents. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant, c'est retourner un petit peu dans cette logique de réseau, retrouver du maillage sensible, humain, faire des choses ensemble et pas penser toujours que c'est ailleurs qu'on va trouver le salut.
Il y a donc effectivement tous ces petits gestes individuels. J'aimerais qu'on revienne quand même sur un autre fait annoncé par Aurélien Barraud dans cette vidéo un petit peu plus loin. Il n'est pas, lui, et c'est vrai que c'est une thématique qui revient très souvent dans les débats, ce sont les déplacements en avion des artistes. Lui, il n'est pas si alarmiste que ça sur le sujet, Pierre Barrois, du fait justement de la puissance de l'art.
Oui, alors il faut effectivement relativiser le poids du milieu artistique dans les émissions de gaz à effet de serre, et effectivement c'est pas énorme du tout. Et je pense que le pire serait de culpabiliser les artistes pour en leur disant ne voyagez plus, parce que de toute façon il faut pas faut pas qu'on ferme les frontières, il faut qu'on continue à voyager, mais qu'on voyage en donnant plus de sens au voyage, à l'échange artistique. Et puis je pense qu'effectivement c'est important qu'on passe de l'individuel au collectif. Et ça, c'est essentiel. Les petits gestes du quotidien, ils n'ont de sens que s'ils conduisent à un travail, à une espèce d'influence, enfin, en tout cas, à montrer aux autres, à montrer ce que dit exactement Leïla, c'est-à-dire que les petites demandes qu'on peut faire dans un rider, elles peuvent mener progressivement aux producteurs à comprendre. De la même façon, un exemple qui vient du milieu des orchestres professionnels. Il y a un orchestre français national que je ne nommerai pas, mais qui a fait une tournée en Chine il y a deux ans, et ils ont fait un certain nombre de concerts dans plein de villes, et à chaque fois ils prenaient l'avion, et au retour des musiciens de l'orchestre ont fait un bilan carbone de cette tournée, et ils se sont aperçus que c'était énorme, et le bilan artistique était très mitigé. Donc il y a eu, à la suite de cette tournée, la création de ce qu'ils ont appelé une green team. Et donc maintenant, dans cet orchestre, il y a une green team avec une commission qui est régulièrement consultée par la direction et qui fait avancer les choses, qui a permis déjà de supprimer les gobelets, par exemple, dans le lieu de répétition, mais qui, à chaque fois qu'une tournée est envisagée, est consultée et qui permet de d'avancer.
Il va falloir repolitiser le débat. Effectivement, Pierre Barrois, le Premier ministre et la ministre de la Culture ont annoncé hier une aide de 20 millions d'euros pour la transition écologique longtemps oubliée dans le secteur de la culture. Leïla Martial, c'est un bon début.
Oui, c'est un bon début. Tout est à prendre. Tout est bon à prendre. Déjà, et puis cette émission, enfin cette matinale que vous proposez aussi, pour moi, c'est quand même un signal fort de se dire la thématique écologie musique est assez maintenant importante, l'écologie pour être portée toute une année en fait comme thématique.
Eh bien, on en continuera à en parler effectivement avec vous, Leïla Martial, et avec vous, Pierre Barrois, évidemment. Un petit mot sur vos actualités propres, je pense, à ces concerts de l'Orchestre français des jeunes à l'Auditorium du Nouveau Siècle pour clôturer cette session symphonique d'été. Le 31 août, dans deux jours, concert numérique diffusé sur votre site internet, c'est à 20h sur le site ofj.fr. Et puis le 3 septembre, concert avec public, on a hâte de voir. Ça, ce sera à 20h également à l'Auditorium du Nouveau Siècle avec l'Orchestre français des jeunes. Fabien Gabel à la direction et puis le violoncelliste, l'excellent violoncelliste Bruno Philippe évidemment.
Absolument.
Pierre Barrois. Et puis vous, Leïla, la sortie d'un disque avec l'Orchestre national de jazz, Rituel, c'est son titre. Concert de sortie, ce sera au studio de l'Ermitage le 28 octobre prochain à Paris. Merci à tous les deux d'avoir été des nôtres et puis à très bientôt dans cette matinale, bien sûr. Et puis restez avec nous, on n'a pas fini.
Merci à vous.
Chère auditrice, chère auditeur. Chère auditrice, chère auditeur.
Et c'est le grand retour de Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
De quoi allons-nous parler ce matin ?
On va parler d'Ennio Morricone qui est mort le 6 juillet 2020. Vous auriez reconnu, quoi qu'il arrive, non ?
Avoir Ennio Morricone.
Ouais, avoir son style, c'est façonner un langage, un argot dans sa propre langue. Bon, il l'a fait vraiment, lui, là, son style, on le reconnaît instantanément. C'est, moi, j'étais pas même pas triste, puisqu'il a vécu jusqu'à 90 ans quand même.
Il a une belle vie.
Ah oui, et puis il nous a fait tellement de musique, telle une grosse production. Alors, j'ai écouté un peu tout à l'heure. Heureusement qu'il n'a pas été écologique, parce qu'il je veux dire, il a fait de la surproduction carrément. Mais moi, j'ai pas fini d'écouter. Vous voyez, je regardais quelle était sa première musique de film, c'était en 61. Et sa dernière, je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est peut-être The Hateful Eight de Tarantino. Et je trouve sa carrière incroyable. Je le remercie d'avoir autant produit de morceaux avec un tel lyrisme pas naïf. On peut écouter un petit peu plus. Vous entendez ce petit motif de trois notes là ? Bon voilà, c'est jamais naïf alors que c'est très premier degré dans l'émotion. Bon voilà, moi je l'adore depuis toujours. Alors là, c'est la musique d'un film qui s'appelle Metti una sera a cena, qui date de 1969, film italien où il y a d'ailleurs Jean-Louis Trintignant et Annie Girardot sur des bourgeois qui ont pas grand-chose à faire. Et le film est un peu dispensable, on peut se dispenser du film. Mais ce qui est bien avec les musiques d'Ennio Morricone, elles sont tout le temps bien. Je n'ai pas entendu une seule mauvaise musique d'Ennio Morricone. Et ce film, cette musique-là, moi je l'ai écouté pendant tout le confinement parce que il y a assez des couches et des sous-couches. Et j'adore le chemin que prend la progression harmonique. Voilà, alors si vous voyez un peu la vie, disons l'échelle de la vie sur le piano, cette chronologie là, voilà, le chemin que prennent les grilles d'accords d'Ennio sont incroyables, quoi. C'est du jazz, mais avec une touche là un peu de pop savante comme ça, et puis des orchestrations qui sont classiques, mais tout le temps surprenantes. Et alors c'est sa façon aussi de changer de tonalité qui est très simple, mais à chaque fois il prend le bon chemin. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Alors donc ce film, ce thème est un peu décliné, mais il y a une chaîne d'ouverture qu'on va écouter avec une femme qui marche comme ça, qui le tempo est calé sur sa démarche. On va écouter. Vous entendez le motif issu du thème. Et là, il est juste décliné différemment. Avec une petite nappe de cordes qui est son crescendo et des crescendo. Bon, sa musique, elle est fantastique parce que, bon, voilà, on peut l'écouter indépendamment des films, évidemment. Je vous ai mis un petit extrait avec les dialogues pour que vous voyez à quel point sa musique est charcutée pendant le film. Mais bon, c'est pas grave, ça marche tout le temps, on écoute avec des dialogues.
Comunque io vi avverto, non riuscirete a non invitarmi.
Vu comment ça a baissé.
Aggrappata a questa tavola.
Infatti non è una tavola.
En plus, il raconte vraiment pas grand-chose d'intéressant, c'est des trucs un peu philosophicaux. Alors qu'est-ce qu'elle raconte cette musique ? C'est une espèce de progression vers le toujours, vers l'horizon, après le soleil, tout ça. Et en même temps, je crois que ça parle un peu de la vanité des dîners bourgeois, j'ai l'impression, hein, je m'en rends pas compte. Le film, j'ai pas vraiment vu, je l'ai regardé un peu hier, mais...
C'est simple, l'histoire. On va écouter un dernier extrait, Christophe.
Ah, c'est vrai, un dernier déjà ? Ah, j'avais plein d'autres trucs à vous faire écouter. Il y avait des covers, il y avait le thème avec chanté. Mais je vais vous faire écouter quand même la grille, d'accord, pour que vous voyez un peu ce que je voulais dire avec le chemin harmonique que ça prend. Je l'ai simplifié à l'extrême et je vous ai joué au piano la mélodie plus la basse. On écoute. Et ça va, mon dieu, mi, la, ré, ça, mon. Là-bas, là, le premier changement de tonalité, très simple. Et il change encore, il monte. Et le refrain. Et le chemin qu'il prend. La, fa, fa. Oh, c'est magnifique.
Voilà, qui bon, voilà. L'envie, en tout cas, de revoir ce film. Merci beaucoup, Christophe.
De rien,
on
c'est
toujours
trop court.
Trop court, hein.
Mais oui, c'est trop court. Pourquoi vous ne me donnez pas plus de
on
temps?
On négociera une journée spéciale, Christophe Chassol sur France Musique, très prochainement.
Non, je veux juste quelques minutes de plus.
Mais là, je dois passer la parole. Il me reste encore deux, trois petites choses à vous dire, chers auditeurs. Oui. Devinez l'instrument de Géraldine Laurent. C'est ce qui vous permettait de remporter son disque Cooking. Elle est saxophoniste. Bravo, Christophe, vous avez gagné le disque. Et puis, des auditeurs à nous aussi. Merci beaucoup à toute l'équipe. Marie-Ferdinand, David Travailleur, Swat Boukorsa, Emmanuel Dupuis. Et puis, merci à France Bleu Toulouse pour le duplex offert avec Leïla Martial. Je vous invite à aller signer cette tribune Cadence rompue pour un monde écologique, pour un monde musical, écologique et social. Toutes les infos sont sur notre site internet. Vous pourrez ici aussi lire l'appel pour une écologie de la musique vivante dont nous parlaient Leïla Martial et Pierre Barrois. Merci à tous. Et puis, bonjour Gabrielle Oliver Aguillon.
Bonjour Saskia Deville.
Quel plaisir de vous retrouver. Ouais. En cette rentrée, France Musique est à vous, c'est tout de suite. Un petit avant-goût, nous dévoiler quelque chose, une petite surprise peut-être.
Surprise, je ne sais pas, mais on va écouter du Marc Bouchkov, un concerto de Mozart, des demandes, voilà, à la fois très classiques et puis qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire grâce aux auditeurs.
Eh bien, on vous retrouve dans un instant. Je vous souhaite une belle émission, une bonne journée.
Merci,
et chers
Saskia.
Auditeurs, à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.